3.
État d'alerte jaune déclenché par toutes les stations. Capitaine, je capte une espèce de signal radio subspatial.
Passez-le sur écoute.
Analyse, monsieur Data.
Les détecteurs relèvent de nombreuses fluctuations gravimétriques assez inhabituelles.
Inhabituelles, c'est-à-dire précisées.
Quelque chose de jamais.
Et bonjour tout le monde et bienvenue à ce 39e épisode de Parlons Trek. Cette semaine, encore une autre belle semaine avec un nouvel épisode de Discovery. Et je suis en bonne compagnie cette semaine toujours, donc en compagnie de Marc. Bonjour Marc.
Bonjour JP.
De Dom.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Dom et de notre très cher Yann. Bonjour Yann.
Bonjour.
Hey. Donc, vos semaines se sont bien passées respectivement.
Oui.
Bon. Pas trop grand-chose, des trekkismes à reporter cette semaine.
moi, j'ai acheté ma pin pour mon nouvel uniforme de... la saison 1, 2, 3 de Next Gen, parce que je me suis dit, je vais vous accompagner pas avec les scans, mais au moins avec un jumper.
Okay.
Fait que là, j'ai mon jumper, je suis en train de le faire ajuster, puis là, il me manquait la communicator pin badge de Escapes, c'est que je l'ai commandé avant-hier.
Ben.
Ouais, c'est ça, moi j'ai reçu...
On va matcher.
Ben, c'est bon ça, parce que moi j'ai reçu mes teintures, fait qu'on va faire notre...
Notre
party de teinture, peut-être pendant le temps des fêtes, là, je sais pas. Oui. Là, on va voir comme quatre gars en train de gosser de la teinture puis du tissu, ça va être fantastique.
Ouais, je vais commander ma teinture.
Pas les cheveux, là, hein?
Ah oh, non?
Ah oui, c'est beau avec les cheveux en teal. Oui.
Ce serait beau, mais je suis tel qui irait avec mon scan.
Ah non, mais j'avoue, oui. Là, on pourrait se teindre les. Ben, là, Marc, on pourrait te cirer le
coco, là. Mais...
cirer le coco de la bonne couleur, là. Pour
il y a toujours la barbe. Il y a toujours la barbe qu'on peut lui faire.
Ah, j'avoue, et... oui.
Et...
Bon. Je sens oui, un poisseux.
Si on prend de l'aîné, c'est vraiment temporaire. Ça dure 2-3 jours, puis on n'en parle plus.
Est-ce que c'est ça qu'on est en train de découvrir dans nos recherches par rapport au costume sous la bonne veillance de Yann, c'est que les tissus, on les trouve pas naturellement comme ça de la bonne couleur. Idéalement, il faut faire le mélange de teinture nous autres mêmes et teindre du tissu blanc de la bonne couleur. Donc oui. Pour les costumiers avancés, je pense qu'il y a peut-être quelques liens qu'on va pouvoir partager une fois qu'on va... je pense qu'on pourrait peut-être documenter un petit peu notre aventure, ce serait le fun. Là, on fera des petites vidéos quand on sera ensemble, là, comme on aime si bien le faire. Outre cela, juste semaine tranquille, c'est ça. La grosse affaire, c'est toujours l'épisode qui est diffusé cette semaine. Mais outre cela, donc évidemment, donc profitons des épisodes qui s'en viennent parce que, en fait, de l'épisode qui s'en vient la semaine prochaine parce que c'est le dernier épisode de l'année. Donc, ça va être le fameux mid-season finale ou le fall finale. Donc... petit break, probablement pour donner un peu de temps à l'équipe des effets spéciaux de compléter et l'ensemble des effets visuels et le montage, la musique, tout ça, donc pour les six épisodes qui vont rester. On est d'ailleurs chanceux parce que l'épisode de cette semaine était supposé être le dernier, mais ils ont décidé de rajouter l'épisode 9. Fait qu'on finit, on va finir sur un autre cliffhanger que celui qu'on a fini sur celui avec la, cette semaine. Ce qui est quand même bien. Je pense que ça va quand même, comme ils disent, ça, ça résout un certain arc. Donc, je pense que ça va nous laisser peut-être un petit peu dans un autre. Dans, ça, en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne laisserait pas un suspens à la Wolf 359. Mais peut-être un autre style. Parce qu'on on verra là-dessus. On pourra comparer les cliffhangers la semaine prochaine. Outre cela, donc, ben, en fait, on sait que donc qu'ils vont recommencer la diffusion le 7 janvier. Donc, le dimanche 7 janvier. Avec l'épisode 10 qui va s'intituler Despite Yourself. Donc, je sais pas, Despite en français, c'est au contraire de soi-même ou. Pas au contraire, mais c'est comme.
Malgré,
et voilà. Donc, malgré soi-même. Donc, le synopsis est étant. Dans un territoire non familier, le USS Discovery est forcé de devenir créatif dans ses efforts pour survivre. In their efforts to survive opposing and unprecedented. Donc, des forces incroyables pour et de retourner chez eux. Donc, retourner à la maison. Donc, on a un petit. J'ai des petites vagues de Star Trek Voyager avec ce genre de. avec ce genre de synopsis-là. C'est comme, bon, ils ont fait un dernier sport jump avant que, je sais pas, avant qu'ils cassent Stamets ou quelque chose comme ça. On en reviendra là-dessus. Puis, est-ce qu'ils pourraient. Parce qu'on sait que l'épisode 10 va être celui qui va être réalisé par Jonathan Frakes. Est-ce qu'il serait peut-être en territoire de
miroir.
Donc, ce serait à voir. Ce serait peut-être justement ce qui rendrait le fait de retourner chez eux plus difficile. Donc, c'est intéressant. Donc, moi, je suis curieux de voir tout ça, donc où est-ce que ça va mener. Mais j'ai l'impression que justement, les Klingons, j'ai l'impression qu'on va régler ça l'épisode prochain.
C'est comme une des nouvelles qui a sorti, c'est ça, c'est que la guerre avec les Klingons allait se conclure dans la première saison.
C'est ça. Mais ça ne disait pas à la fin de la première saison. Là, c'est
mais
ça,
là. C'est que tu es dans la saison 1, donc il faut qu'elle se règle à un moment donné aussi, parce que veux pas, ça fait déjà pas mal longtemps qu'ils sont en guerre.
Ouais.
Puis une guerre, ça coûte cher, puis c'est pas nécessairement bon pour tout le monde non plus.
Ben, faut dire, Deep Space Nine, ils ont été en guerre pendant deux saisons de temps, là, fait que...
Ah, oh, plus. pas mal trois, quatre saisons.
Ben, officiellement en guerre pendant deux saisons.
Ben, la grosse guerre, deux ans, ouais, mais...
C'est ça.
Et le build-up, là, puis...
Ouais, t'as le build-up, la paranoïa, la guerre contre les Klingons avant, les autres petits conflits aussi, donc... Donc, il y a plein de choses. Sinon, ben le travail sur la saison 2 va commencer. Là, si c'est pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine. Donc, ils disent que ça va commencer au travers des deux prochaines semaines. Donc, on sait très bientôt. Donc, l'équipe, qui je pense que dès la journaliste qui avait annoncé la saison 2, ils avaient déjà montré leur bind. J'utilise les mots en anglais, là, mais ils avaient montré leur cahier. Pour la saison 2, donc ils vont pouvoir commencer, à écrire tout ça. Donc, d'une manière réaliste, je pense pas qu'on puisse s'attendre à quelque chose avant janvier 2019. Peut-être avec un peu de chance là, en automne prochain. Ça dépend.
Qu'est-ce qu'on va faire?
Ah, bonne question. Je pense qu'on va être
obligé. Il va falloir écouter The Orville.
Ah, attends. Non. Moi, j'ai une solution. On va écouter SeaQuest.
Ok, c'est bon ça.
Attendre ouais, seulement un an, là, c'est vraiment rien comparé à d'autres séries.
Ouais, non, c'est
vrai. Les Sherlock Holmes, il faut qu'ils attendent 4-5 ans. Les Doctor Who, c'est pareil. Fait que,
ouais.
Un an, c'est pas trop pire.
C'est vrai. Voilà. Game of Thrones aussi, là, c'est des fois, c'est comme quasiment plus qu'un an, je pense.
Ouais, ben Westworld aussi, là, ceux qui regardaient ça. Donc, ben, on est dans une époque de télévision, de ce qu'on appelle de télévision de prestige. Donc, ce n'est plus ce n'est plus la quantité, mais c'est la qualité qui compte par-dessus tout. Donc, ils ont pris un petit peu le modèle britannique, là. Moins d'épisodes.
Et des meilleures qualités, exactement, parce que on s'entend que quand tu es sur le modèle de 24 épisodes à chaque saison, ça en fait des épisodes d'une heure à écrire. Puis ben souvent, tu te retrouves avec des fois. Quand tu n'as plus de matériel, c'est là que tu te retrouves avec des épisodes soit de Noël, où est-ce que le monde se rappelle le bon vieux temps. Des trucs de quand tu ne sais pas quoi faire. Ah, on fait un épisode de Noël, puis on va se rappeler ce qu'on faisait il y a 2 ans.
Mais c'est vrai, c'est un des reproches que Brandon Braga il avait fait pour Enterprise, c'est que vraiment, il en demandait beaucoup trop, 24 à 26 épisodes par saison, des fois. C'était vraiment trop pour avoir assuré une bonne qualité, là. Fait que, définitivement, moins d'épisodes, on peut espérer que ça va avoir une influence sur la qualité.
C'est ça, ils ont plus de temps, je pense, ils ont plus de temps de production par épisode aussi. Ce que j'ai pu comprendre, là, ils ont, je pense, 2 semaines par épisode, si c'est pas un peu plus. Donc, où ils peuvent avoir jusqu'à 2 semaines, dépendant de ce qu'ils ont besoin, là. Mais c'est ça, fait que c'est sûr que ça permet d'avoir un produit qui est plus meilleure qualité, là.
Et en plus, ça permet aussi de focusser sur un élément de l'histoire, pas juste. C'est quand t'en as 24, mais là, tu trouves 24 idées géniales. Là, t'en as 15. Là, t'as ton arc. Fait qu'avec 15, c'est suffisant pour nous amener où est-ce que tu veux, où est-ce que les auteurs veulent.
Ouais,
sans nous perdre, sans nous ennuyer non plus. Là, c'est...
Mais il faut pas oublier l'épisode Shades of Grey de saison 2 de Next Generation. Ou en fait, il faut pas l'oublier, je dirais, beaucoup voudraient l'oublier, là, parce que c'était vraiment juste ce qu'on appelle un clip show, là. Donc c'était vraiment juste, on n'a plus de budget, mais il faut quand même pousser un dernier épisode, fait qu'on va comme faire que Riker est malade, puis qu'il va avoir comme plein de flashbacks. Puis c'est ce que ça a donné, là.
Ça donne des épisodes pas trop bons, tu vois tout de suite que la qualité n'est pas là, puis tu dis, OK, là, ils ont manqué de budget ou d'idées, puis c'est pour ça qu'ils l'ont fait.
Oui, oh, oui, c'est ça.
Mais en même temps, comme oui, il y a des situations comme ça, mais il y a d'autres épisodes, je me rappelle pas comment ils appellent ça, des bottle episodes, là,
ouais.
Où est-ce que ça se passe vraiment tout sur le vaisseau, un petit peu comme dans Star Trek Enterprise, Shuttlepod 1.
Ouais.
Qui était comme un épisode qui était très fort sur le dialogue, qui était dans le shuttle pod avec Chip et Malcolm. Il n'y a pas grand-chose qui se passait dans cet épisode-là, mais c'est quand même considéré comme un des bons épisodes de Enterprise.
Ouais. Ben moi,
puis ça n'a pas coûté cher. Ça n'a pas coûté cher.
Mais moi, ça me rappelle, c'est pas Star Trek, c'est Babylon 5. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi cette série-là. Mais à la fin de la saison 4 de Babylon 5, il était Straczynski, le producteur, était certain que la série allait être terminée. Fait qu'il a tourné son épisode final de la série. Finalement, il s'est fait dire, bon, ben finalement, on va te donner une 5e saison. Il a fait, ah, shit. Et il y a eu comme quelques jours ou même très peu de temps, puis il a fait un espèce d'épisode clip show, que c'était comme dans le futur lointain, puis il y avait des êtres humains du futur qui regardaient le passé, là, puis ça montrait des... C'est pas nécessairement un clip show, c'est une tournure intéressante sur un clip show, parce que c'était pas un clip show, parce que c'était pas des extraits d'épisodes qui étaient déjà existants, mais c'était quand même des petites scènes. C'est plus comme des petites histoires ramassées ensemble, là. Ceux qui connaissent ça, je vous recommande. Mais ça me fait penser un peu à ça, là, justement, ce genre de situation. Mm-hmm. Puis finalement, ce qui est le fun, c'est qu'il a pris cet épisode-là, il a mis ses étagères, et un an plus tard, ça a été la finale de la série, puis ni vu ni connu. Non, non. Mais c'est ça, des fois, la production de série, là, c'est assez rocambolesque. Outre cela, il y a quelques petites choses qui sont sorties cette semaine. Dom, tu as mis la main sur un ou deux petites choses.
Oui, deux magnifiques livres.
Oui.
Dont un, c'était vraiment pour l'enfant en moi, c'est-à-dire le Search for Spock, à la recherche de Spock, qui est un livre de chercher-trouve classique, mais avec une petite twist de Star Trek.
OK.
Où est-ce qu'il faut trouver Spock, très original. Puis là, en plus, le livre nous promet 15 nouvelles missions étranges.
OK.
Fait qu'on se promène de... Là, je suis en train de l'ouvrir pour... Parce que je l'ai encore juste... On se promène dans... Ça ressemble à le Chicago des mafios, des mafiosi.
OK.
Ensuite, il y a les Gideon aussi. Fait qu'il est assez facile à trouver parmi les Gideon, là. Spock.
OK.
Non, il y a des... une scène classique de Tribal. Star Trek original, série originale, sans Tribal, c'est pas
ben
ça.
Ben oui, c'est sûr.
C'est pas des OS. Ensuite, on se promène chez les Romuliens, chez les Klingons. Fait qu'on se promène vraiment un peu partout, juste pour le plaisir de trouver Spock dans une scène cocasse où est-ce qu'on le trouverait pas habituellement. Et quand même, et le livre, sur la pochette du livre, c'est écrit une parodie hautement illogique.
OK.
Hautement illogique.
Mais pour le pur plaisir d'avoir un item dans sa bibliothèque qui sort de l'ordinaire des cherche-et-trouves traditionnels, moi je l'aime bien. Les dessins sont bien faits aussi. On en reconnaît assez rapidement les personnages principaux. C'est ce qui compte aussi. Ils sont pas juste un dessin rapidement fait que on ne le reconnaît pas parce qu'on voit les oreilles pointues. C'est vraiment, il y a les traits du visage caractéristiques de Leonard Nimoy. Même affaire pour Bones ou Kirk, on les reconnaît assez facilement. Donc, c'était quand même une petite recommandation, genre pour l'été.
OK.
C'est quand même léger, puis trouver Spock à l'âge qu'on est rendu, c'est assez facile de le trouver. Là. Mais c'est quand même je le recommande quand même.
Bon. Et le deuxième livre. J'entends un Tribble.
Dom a dit Tribble, c'est que je pouvais pas m'empêcher. Et il va se calmer, là.
Tout doux.
J'espère qu'au moins qu'il est stérile, celui-là.
Ouais, à date, j'en ai pas eu d'autres.
Ok, c'est chanceux. Moi, j'en avais un au départ, je suis rendu à une vingtaine.
Ah, c'est pas pire, ça. Sinon, Dom, t'as mis la main sur The Star Trek, The Book of Lists.
Oui, qui est très intéressant, surtout pour faire des petits questionnaires entre amis pour justement se challenger à savoir. Par exemple, les relations diplomatiques, il y a Charles de Sarek, de Gav, commandant Robert April, d'Oden. Plein de petites informations comme ça. Il y a 100 listes qu'on fait juste de Star Trek.
OK.
Et la dernière liste, c'est les fans de Star Trek connus. Puis c'est avec une belle photo de Michel Nikov avec Obama.
Nice.
Il y a le président Obama qui est le premier sur la liste. Sinon, il y a Ben Stiller, un acteur. Daniel Craig, James Bond lui-même, est un fan. Il y a Tom Hanks, Rihanna, qu'on a vu aussi qu'elle a fait une des chansons des nouveaux films. Il y a Mila Kunis. Aussi, il y a... Ah! Même Ronald Reagan était fan de Star Trek.
Ben oui, il était sur le plateau, si je me rappelle, de l'épisode Code of Honor, où c'est un épisode de Klingon. Puis il avait comparé pas l'Empire Klingon, mais les politiques de Klingon aux politiciens américaines du Sénat américain.
Yeah. Il y a aussi le chanteur country Brad Paisley. Il y a évidemment il y a Seth MacFarlane aussi qui est dans la liste.
Oui.
Il y a le docteur Martin Luther King Jr. est aussi un fan.
Oui.
Le livre justement a plein de petites listes comme ça de ce genre-là qui nous en fait en apprendre un peu plus sur des insights dans Star Trek. Par exemple, il y a la liste typique de les combats qu'il y a eu sur Vasquez Rock.
OK.
C'est quand même un incontournable.
Oui.
Vasquez Rock, c'est la liste 71. Fait que là, il y en a essentiellement les listes, les fights, c'est ceux de TOS qu'ils ont mis. Mais ils en ont mis une de Voyager, d'Enterprise. Il y a le Star Trek 4, Voyager Home aussi. Il y a TNG. On voit vraiment que ça vient juste illustrer que Vasquez Rock vraiment. C'est un look extraterrestre à tout prix.
Ça, et pour le re-mentionner, si vous n'avez pas encore vu, donc le vidéo de Tom Scott qui parle de cette zone TMZ, donc la zone autour de Los Angeles, donc qui explique pourquoi on voit Vasquez Rocks aussi souvent. Je vous invite à aller regarder ça. Parce que c'est vraiment pour des raisons syndicales qu'on voit toujours les mêmes places dans les films de science-fiction.
Ouais, ça. C'est juste à côté de leur studio, ça coûte moins cher, puis un désert, c'est un désert, puis
c'est sûr.
Ça peut. Puis ça a un beau look, mais visuellement parlant, c'est quand même beau à voir aussi.
Oui.
C'est intéressant, là, ça. Oui, vas-y.
Non, mais c'est ça, il y a plein de listes. Donc, la première étant les baisers de Kirk les plus mémorables.
Oui, c'est ça, les baisers de Kirk. Il y a... en fait, c'est simple, ça, c'est divisé en chapitres. Le premier chapitre, c'est sur le personnel de Starfleet. Le deuxième, New Life and New Civilization. Le troisième, les vaisseaux. Quatrième, la frontière ultime. Cinquième, les histoires du futur. Le sixième chapitre, c'est Behind the Scene, les making-of. Chapitre 7, Par les chiffres. Et le huitième, c'est To Bodily Go.
Non, c'est juste ça.
Ça couvre vraiment plein d'aspects qui touchent Star Trek.
Ah, c'est bon ça, c'est excellent. Fait que ça couvre autant dans l'univers qu'à l'extérieur de l'univers de Star Trek. Dans un point de vue de production que dans l'univers lui-même. Là.
Exactement. Et comme je disais, c'est pour te challenger entre amis pour des petites questions, c'est un bon point de départ pour pouvoir trouver justement des infos. Par exemple, on a parlé de Ronald Reagan. Ben, pour, si je ne me trompe pas, c'est à la recherche de Spock. Il s'est permis, tellement qu'il était fan, d'avoir une projection privée du film à la Maison-Blanche.
Ben oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas, c'est quand même assez intéressant comme petit fait. Moi, je ne le savais pas. J'ai trouvé ça... C'est plein de petits faits comme ça dans le livre. Très intéressant à savoir en tant que Turkey. Puis pour faire des petits... Comme je disais, ça sort des petits questionnaires, puis ça challenger. Tu poses une question, l'autre répond, puis... Ça fait changement des livres habituels de trivia qui posent questions-réponses. Là, au moins, c'est pas des questions-réponses, c'est plein de réponses avec plus de... Un peu d'informations supplémentaires que juste la réponse qui est simplement la réponse, sans explication, en rien. Là.
OK, tu as un peu plus de contexte par rapport à tout ça.
Exactement.
Sinon, mon cher Dom, est-ce que tu as 150 $ US à dépenser sur une figurine de Khan Noonien Singh?
150. Ben! J'ai rien à dire. J'ai, dans ma collection, j'en ai qui m'ont coûté 500 canadiens.
Ouais. Oh. Parce que...
Mais c'est sauf que c'est Spock pis Kirk.
Ouais.
Là,
c'est qui vend ça, Khan?
C'est QMX. C'est un Khan de la série originale.
Le beau chest de Montalban.
Ouais, mais c'est d'ailleurs, c'était son... Il y a des gens qui disent que c'était un chest en plastique, mais c'était ses vrais pectoraux. Ouais. Dans Star Trek The Wrath of Khan, là, dans Star Trek 2, c'était son vrai chest. C'était son vrai... son vrai abdomen. Mais non, en effet, la figurine en tant que telle, c'est la figurine de Khan telle qu'on a vue dans donc la série originale, dans son habit rouge. C'est une figure à 1/6, donc à peu près 12 pouces de haut.
Donc, ça vaut la peine. C'est une bonne grandeur, c'est justement son, à l'échelle.
Oui, c'est ça. Donc, avec 30 points d'articulation, sculpté selon les allures de Ricardo Montalban. Montalban. Donc, vous compris, un Mexicain pour jouer un Hindou. on peut échanger ses mains pour avoir justement l'action de Khan qui plie un phaser dans ses mains. Donc, il y a même un petit phaser plié là, qui vient avec ça. Donc, c'est vraiment... on va probablement pouvoir voir ça sur les étagères très bientôt.
Oui, donc, il arrive... C'est
vrai qu'avec
UMX, ça risque de coûter cher de livraison.
On a des passes drettes. C'est pour ça que ça intéresse. Ça arrive en décembre. Sinon, Roddenberry.com a quelque chose de très intéressant.
C'est
le L-Cars... Non, c'est le L-Cars... L-Cars Keycap Set. Donc, en fait, si vous n'aimez pas votre clavier tel qu'il est présent, vous pouvez simplement en changer les touches. Je pense que ça vient avec le case, mais c'est ça parce qu'il faut que tu aies un clavier déjà.
Dans le fond, c'est le dessus du clavier que tu peux changer avec les touches.
C'est ça.
Faut que tu aies un clavier fonctionnel d'abord et avant tout.
C'est ça, exactement. Donc, ce n'est pas un clavier au complet, c'est bien les touches. Ceux que ça intéresse, ça se vend 109 $ américains. Ça peut être précommandé sur Roddenberry.com. Donc, on a des touches avec aux couleurs L-Cars de Next Generation. Donc, avec des tons de bleu pâle, de mauve, de jaune et... Il y a même une petite touche en métal ou en simili-métal avec un Enterprise D3D pour remplacer une des touches. Ça donne un look très next generation. Et justement, la typographie, donc la fonte utilisée sur les touches, c'est du Swiss 911. Donc là, c'est la
fonte
utilisée par
La police
de caractère, pardonne-moi. Moi qui ai fait mes cours de typographie, je devrais être capable de trouver ce mot-là. La police de caractère utilisée par Michael Lacuda, donc pour tout ce qui est L-Cars. Donc, ça vient renforcer ce look L-Cars pour le clavier. Pour ceux que ça intéresse, donc on a un deuxième cahier à colorier pour adultes qui s'en vient. Donc, pour ceux qui... ta femme ou ton... Si votre femme ou votre copain vous amène à un endroit où ça vous tente pas trop d'aller, il peut vous laisser dans un coin avec un cahier à colorier.
Oui, pour déstresser. Ça a la saison.
C'est ça. Donc, c'est un livre à colorier qui va couvrir... Donc, le premier de Next Generation qui couvrait comme les premières saisons, celui-là couvre le deuxième qui a été colorié, donc couvre les saisons ultérieures de Next Generation. Et petit truc sympathique, chez Entertainment Earth, un pad journal. Donc, pour ceux qui aiment encore écrire à la main dans un petit livre, il y a un petit journal où ce que la couverture est un coupé dedans parce que ça fait comme un pad, donc un pad dans Next Generation. Donc, beau petit look pour un petit journal intime, ou plus ou moins, là, ou un journal au moins pour prendre des notes. Donc, quand même, c'est sympathique. Disponible pour $11.99. Donc ça, c'est quelque chose qui serait peut-être sympathique. Si j'étais à Las Vegas puis je vois ça, ben je vais peut-être me gâter, tu sais, admettons. Faut juste dire.
JP, je ne sais pas si on avait déjà parlé. Il y a le phaser de Star Trek Discovery.
Oh,
qui est disponible
Dieu,
par
vrai.
Anavos.
Oui,
$500. Ils sont déjà rendus à la troisième vague de commandes. C'est que ça a l'air de bien se vendre.
Ah non, mais Discovery, non, ça passe pas. Le monde n'aime pas Discovery. Fait que le monde veut pas. Non,
mais tu sais, le monde ne veut pas donner $7 pour, par mois pour s'abonner à CBS Access. Ils n'iront pas donner $500 pour un PSE.
Ben non.
Vous irez reconnu ici le sarcasme, évidemment. Parce que, non, en effet, le fait qu'ils sont rendus à la troisième vague, je sais que la première vague était pour décembre.
Mm-hmm. La deuxième vague, c'était février 2018. Puis là, la troisième vague, on parle d'avril 2018.
Mais étant Anavos, est-ce qu'Anavos, on ne les a pas vus se lancer tant dans les props? D'habitude, ils reléguaient ça à QMX.
Oui, mais ça se trouve, des fois, ils font. Ils vendent du stock de QMX sur Anavos, de toute façon.
Ouais. Mais là, j'ai l'impression que c'est
une collaboration.
Peut-être, oui. En tout cas, on verra ça. Parce que là, il y a même l'indicateur de niveau de batterie de phaser qui est sur le côté, qui va être fonctionnel. Je sais pas, est-ce que tu as vu si le phaser va être détachable sur le dessus? Ou,
Je regarde une photo en ce moment, puis oui, le petit phaser sur le top, il se détache.
Oh yes! Donc, ouais. Non, mais j'ai pas 500$ pour ça. J'aimerais avoir $500 pour ça. Mais non, je n'aurais pas le choix d'attendre. Mais tu sais, déjà que j'ai payé. Écoute, là, j'ai payé. Comme je vous disais, tu sais, j'aime ça acheter des choses qui ont au moins un semblant d'utilité. Comme le phaser Remote Control ou le Bluetooth Communicator. Correct, tu sais, $150, $139, c'est pas trop pire. Tu peux relativement justifier, c'est beau, mais 500$, je trouve que c'est. En tout cas, c'est un peu rough sur le portefeuille, ça.
Surtout quand tu considères que Master Replica a fait des phasers de TNG à beaucoup moins cher. J'en ai un de Nemesis, je pense que c'est de celui de Nemesis qu'ils ont fait. Ils m'ont coûté $300. C'est pas la même chose. C'est sûr qu'il n'y a pas la même technologie non plus dedans. Là.
Non, c'est mais sûr. Là.
Il ne s'appartient pas en deux ou quoi que ce soit, mais c'est quand même.
$500 US plus shipping, plus peut-être les douanes.
Ouais, c'est sûr que les douanes doivent l'arrêter, c'est sûr. Ça.
Cette valeur-là, là, ouf. Non, c'est un objet de haute collection. Comme je dis, j'aimerais ça, mais tabarnouche.
Oui, ben c'est sûr, c'est ça. Comme on aimerait tous avoir. Moi, je me suis commandé la chaise de capitaine d'Anavos. Je suis toujours recevoir au mois d'octobre, mais finalement, c'est rendu au mois de décembre.
La chaise de capitaine?
Capitaine de TOS. Mais pour grandeur nature, là, c'est.
Ah, ok. Ok.
Elle est à l'échelle pas mal un peu plus réduite.
Ok, parce que je sais qu'il y a comme 2-3 ans, tu avais une chaise grandeur réelle qui se vendait comme $2,500, quelque chose comme ça, là, une réplique exacte. Là.
Non, j'ai pas payé. J'ai pas cherché pour mettre ça sur une chaise qui va servir à. Pas grand chose.
Une chaise va te servir à t'asseoir dessus. Quand même, c'est un outil. C'est exactement à quoi que ça sert.
Oui. Mais non. J'avoue que, ouais, écouter un Star Trek sur la chaise du capitaine, c'est quand même bien.
Ben, faut dire que la chaise de Kirk, c'est pas la chaise la plus confortable au monde non plus.
Non, ils ont repensé avec TNG, ils ont repensé au confort.
Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Donc, outre cela, y a-tu d'autres choses qu'on a vu passer cette semaine? Moi, ça.
Je pense que ça fait le tour pas mal.
Non, c'est ça. Mais là, comme on parlait, là, on entend de moins en moins parler de The Orville. Donc, on disait que le monde commence à comprendre. Ben, pas à comprendre, mais je pense que le Star Trek commence à.
comment t'as réalisé que
finalement, c'est Star Trek?
C'est ça, le public.
Pas si pire que ça, là.
C'est ça, le public commence à assimiler le fait que Star Trek, c'est Star Trek, puis Orville, ben c'est bien, mais c'est ça.
C'est pas Star Trek.
C'est ça, exactement. Comme je dis, moi, pas encore. Peut-être pendant le break, je vais regarder ça, mais on verra. Ben, écoute, on va mettre un petit break musical. Je vais mettre une petite chanson de nos amis de Five Year Mission. Et on vient après la pause pour parler de... oh mon Dieu, le nom de l'épisode de cette semaine était... V6, Parcebellum, Parcebellum...
Vu la paix et prépare la guerre.
Ouais, c'est ça, là, mais en latin. Si vis passem parabellum. Hein?
Tellement beau.
Ça sonne bien.
Donc, on
va faire la version Klingon.
Toujours meilleur que Klingon original. Donc, sur ce, on vous revient après cette pause.
We set down on Omicron City. We'll be right back.
Et c'était donc This Side of Paradise, donc The Five Year Mission. Et j'ai choisi cette chanson-là parce que je pense qu'il y a des liens à tirer entre ce qu'on a vu cette semaine et cet épisode de Space Hippies. Ce qu'on on peut voir Spock très heureux dans son âme versus... Oh, oh! On entend quelqu'un. Donc, c'est ça. Donc, ça m'a inspiré donc le choix de cette chanson-là cette semaine. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'on a vu cette semaine, les amis?
Enfin, un vrai épisode qu'on peut dire une Star Trek comme de l'ancien temps. Là. Une petite mission. Quelqu'un de possédé.
Ben, il était pas possédé en tant que tel, ça.
Non, il était drogué ou manipulé.
Honnêtement, je suis pas. Pas convaincu.
Moi, ce que je crois, c'est probablement était sur le même effet un peu que ce que Cyborg avait quand il rentrait le monde et il les libérait de leur douleur personnelle. C'est un effet plus. Pas, peut-être hypnotique ou.
C'est ça. Mais c'était vraiment. J'ai l'impression que c'était vraiment Saru. Mais c'était Saru qui était libéré de sa peur.
De son complexe d'être une proie.
C'est ça, exactement. Fait que oui, ça, c'est sûr que ça va créer un choc quand ça arrive, paf, de même. Mais tu sais, c'est ça. Oui, c'était lui. Il n'était pas sous une influence extérieure, mais ça reste. C'est un...
Il était en conflit personnel avec lui-même, puis devant une opportunité unique qui était offerte, puis il a capoté.
C'est ça, exactement.
Il était à la recherche d'une paix intérieure, comme qu'il disait lui-même, puis l'espèce sur la planète lui a offert.
Non, mais en fait, le lien avec Saiba qui est quand même intéressant parce que ça. C'est vraiment ça fait penser à quelque chose, ça fait vraiment penser à quelque chose de similaire, vraiment, parce que comme je dis, c'est pas une influence extérieure, c'est juste quelque chose ou quelqu'un qui te fait réaliser quelque chose par rapport à toi-même ou qui te fait voir quelque chose d'une autre perspective, puis là bang, c'est comme tout change dans ta vie d'une shot. C'est
il l'a dit à la fin, c'est la première fois qu'il vivait sans la peur.
C'est ça. Mais faut dire, avant on va revenir là-dessus tantôt, mais on va arriver vraiment sur l'intro de l'épisode. Ah, donc le
c'était
USS
épique. Vraiment, vraiment incroyable.
Ah oui, donc on voit le Discovery avec le un autre
Gagarin.
Le Gagarin.
USS Gagarin.
Donc
qui ressemblait un petit peu comme un petit peu au Akira Class dans First Contact, un petit peu. Là.
Ouais, un petit peu. Les nacelles font pas très TOS.
Non, non. Ben, whatever.
OK, je fais juste ça. Mais, ouais. Non, mais en fait comment dire, ça fait... j'ai bien aimé la scène. C'est juste plate pour le Gagarin.
Mm-hmm. Mais les deux autres vaisseaux qu'on ne sait pas qui étaient.
Mais en même temps, ça montre que le Discovery, un peu la tragédie du Discovery, c'est comme, bon, mais s'ils ne réussissent pas à aider, c'est comme eux autres survivent et vivent avec le fait d'avoir échoué encore plus.
Ils ne peuvent pas sauver tout le monde.
C'est ça, exactement. C'est là qu'on voit que ils se rendent compte que les vaisseaux peuvent pas tirer pendant qu'ils sont occultés. Donc là, bon, c'est ça. Donc là, je suis curieux de voir, par rapport à cette histoire d'occultation-là, j'ai pas fait mes recherches. Il faudrait que je fasse mes recherches plus précisément, surtout par rapport à l'épisode The Enterprise Incident, où est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que plusieurs disent que les Klingons ont techniquement eu la technologie d'occultation des Romuliens. Mais durant ce fameux grand échange de technologie où ce que, bon, je pense qu'ils ont comme décidé de... Je sais pas, c'est comme au niveau de la production qu'on fait, bon, mais on veut des Romuliens, mais on a juste des D7. Puis va dire que c'est des Romuliens qui est dedans. Ça, il faudrait que je fasse un petit peu de recherche par rapport à ça. Mais tu sais, c'est ça, parce que souvent les fans vont mélanger ce qui est le ce qui est comme sous-entendu avec ce qui est un fait. Donc, justement, comme toute cette histoire de Spock qui était supposément le premier Vulcain dans Starfleet, ce qui était entièrement pas vrai, ça n'a jamais été mentionné nulle part canoniquement. Il va falloir que je fasse une petite recherche là-dessus par rapport à la technologie d'occultation. Ou en titre, je veux dire...
Ah oui, parce que pour les Vulcains, on sait que le USS Intrepid, qui est juste de Vulcain, puis là, ben, maintenant, on voit l'amiral qui est Vulcain. Alors, il est amiral, il n'a pas commencé amiral, il a sûrement monté des grades.
L'amiral qui se fait raccrocher d'en face. Donc, c'est un vlog, il faut que je fasse mes petites recherches par rapport à ça, parce que des fois, c'est ça, parce que c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire, c'est de scier sa mémoire par rapport à des trucs comme ça. Parce que des fois, notre mémoire est un petit peu mélangée par rapport à des choses qu'on aurait lues ou vues ou sous-entendues, mais qui n'étaient pas nécessairement mentionnées. Donc, en tout cas, on verra ce qui se passe la semaine prochaine. Si jamais ils sont capables de percer avec la nouvelle technologie au travers de leur cloaking device, bon, ben tant mieux. Fait que là, ça pourrait juste expliquer pourquoi celui des Romuliens y est meilleur, puis tant mieux. Sinon, ben celui des Romuliens pourrait être juste meilleur et de... Il y a toujours moyen de... Je pense qu'il y a toujours moyen de fitter ça dans le canon. Là. C'est comme... Dans Star Trek Enterprise, on a vu comme dans l'épisode Minefield, on a vu les Romuliens avec une technologie...
Les mines cloquées.
C'est ça. Ben, Bush, les mines, leur oiseau de proie.
Ah oui, mais oui. Ben oui.
Ils s'occultaient aussi. Donc, c'est simplement... On peut simplement mentionner, tu sais, bon, mais justement, tu sais, ils ont été capables assez, je dirais pas facilement, mais ils ont été capables de le percer, leur cloaking. Fait qu'on peut juste dire que celui de 100 ans plus tard, ben, c'est comme un qui sont pas capables de percer, qui est plus. Fait que c'est de dire que c'est le premier ou que c'est le. En tout cas, c'est ma manière de. Je pense que ça va être la manière dans ma tête, en tout cas, de mon headcanon, là, d'arranger tout ça. Simplement de dire que c'est une meilleure version du cloaking device que la version précédente. Là. Parce que là, c'est ça. Personnellement, j'ai jamais aimé le fait que les Klingons aient eu des cloaking device. Je trouve que ça va contre un peu le...
leur force de l'honneur.
C'est ça, tu sais. Mais en même temps, c'est un outil qui est fun à avoir pour une race guerrière. On se le cachera pas, tu sais. C'est quand même pratique à avoir, mais...
Mais ça, pour débusquer, pour faire de la reconnaissance, pour aller en territoire ennemi sans être vu, c'est quand même pratique.
Ouais.
Mais attaquer sans être vu, moi, je sais que personnellement, pour un Klingon, l'image que j'ai des Klingons, quand même, qui sont avec l'honneur et tout, c'est comme... ça manque d'honneur.
À moins que tu sois le General Chang, joué par Christopher Plummer.
Oui. Mais par contre, sauf que le cloaking device marche parfaitement avec l'esprit fourbe des
Romuliens. C'est ça, exactement.
Ils n'ont pas d'honneur, ça fit avec eux autres, mais avec les Klingons, mais de l'autre côté, les Klingons, c'est sûr, là, on voit, ils ont de l'honneur et tout, mais ils n'ont pas toujours été comme ça non plus.
Oui, non, c'est un fait.
C'est comme quand on regarde le Klingon qui veut prendre le pouvoir... Il l'a dit dans les derniers épisodes que lui, il veut pas unir les Klingons. Il veut qu'ils soient à sa botte.
C'est ça.
Il veut le pouvoir, il fait pas ça pour l'Empire, il fait ça pour sa propre gloire.
Il ne fait pas ça pour le Kallès, il fait ça pour c'est pour lui-même. Là.
C'est ça, c'est pour ça qu'il est un peu beaucoup fourbe aussi dans ses manœuvres politiques.
Ouais, c'est ça. Donc, l'épisode de cette semaine, on a eu comme trois... On a l'histoire sur la planète, on a l'histoire sur le vaisseau Klingon. Et on a comme un petit bout d'histoire avec Stamets puis Tilly.
Ouais.
Mais ouais. Cette bout-là était le plus insatisfaisant. J'ai l'impression qu'ils ont comme... Ils l'ont littéralement dit. Ils ont beaucoup de scènes qui ont dû couper. Là, parce que je sais que justement dans After Trek, Jane Brooke a mentionné qu'il avait dû couper.
Le dialogue avec Elrell. Ben ouais.
Avec Elrell. Puis celui qui fait le Dr. Culber, il a mentionné qu'il y avait une scène avec lui et Stamets qui ont dû couper parce qu'il y avait une photo de l'épisode où on voyait Culber et Stamets dans la salle, dans la cafétéria. Puis en fait, justement, on n'a pas vu ça dans l'épisode. Donc ça a dû se ramasser sur le
Blu-ray.
Ça va sur le Blu-ray. Donc, ou peut-être avec un peu de chance dans le prochain épisode. Je sais pas s'ils vont peut-être récupérer des scènes. Ce sera à voir. Donc, j'ai l'impression que tout ce qui va être par rapport à Stamets, de ce qu'on a vu cette semaine, j'ai l'impression qu'on va se rattraper là-dessus la semaine prochaine.
Parce qu'il semble arriver à... il y a de la misère de plus en plus avec les jumps, là, puis on comprend qu'il approche rapidement à sa limite.
Oui, c'est ça. Tu sais, quand il se remet à ne plus reconnaître les gens, ou ça, quand il dit qu'il n'est pas ici, mais qu'il est comme ailleurs... Est-ce qu'il parle jamais là? Est-ce qu'il commence à traverser dans l'univers miroir ou quelque chose comme ça, dans les réalités alternatives?
Non, mais Capitaine Tilly.
Hey, ça serait-tu drôle si dans l'épisode Mirror, on ait Tilly comme capitaine?
Hey, ça serait une méchante médecinerie qu'elle aurait dû faire. Hein? Se ramasser de cadet à capitaine, là. La seule fois qu'on a vu ça, c'est dans l'épisode de Valiant là, de DS9. C'était pas vraiment une mutinerie non plus. Là. Mais ça, c'est quelque chose d'autre. C'est sûr que. Est-ce que. Sinon, pour ce qui est de Elrell. Question. Est-ce que vous pensez que l'amiral est morte?
Moi, non. Moi, je dis que non aussi.
Okay. Moi, selon moi, ils l'ont mis dans un cercueil puis elle l'a fait sortir.
Ouais.
Ben non, c'est ça. De toute façon, j'ai pas l'impression non plus parce que, tu sais, knock-out, oui, mais...
Ouais. Ouais, c'est ça, oui, ça, mais j'ai l'impression que toute la scène faisait partie du plan.
De sa mise en scène, là.
C'est ça, c'est la mise en scène, c'est... Parce que t'en allais de même... Parce que lui, t'en allais... comme s'il allait prendre une marche pour aller dehors.
C'est
vrai. Il ne pouvait pas s'en aller une même comme ça. C'est comme, là, voulait, en même temps, la Tlingon voulait prouver sa loyauté envers l'autre, mais il a comme pas marché.
Ouais. Mais moi, j'ai encore la misère à voir ce qui se passe avec les Tlingons. Tu sais, c'est pourquoi Cole, il va peinturer la face de Elrell. Pensais te dire t'es une menteuse.
Ouais.
C'est comme je suis un peu troublé par ça là. Je suis curieux de voir.
C'est très difficile à figurer. Même Elrell, ses intentions, c'est comme tellement difficile à saisir. Ouais. Avais-tu vraiment défecté? Pas sûr.
Non, c'est ça. Mais... C'est comme quand elle était voir, c'est ça. Quand elle est voir l'amiral. C'est puis encore là, même là, on ne sait pas si c'était sincère dans. Puis je pense qu'on peut adresser la question. Vok, est-ce que Vok est Tyler? Est-ce que Vok,
on l'a pas revu depuis.
On l'a pas revu depuis. Là, il y a comme mystérieusement Tyler qui pop et qui s'est visiblement fait agresser sexuellement par Larell. Parce qu'il y a eu du fort sous-entendu par rapport à ça quand ils en ont parlé dans Choose Your Pain.
Moi, la seule raison pourquoi je dirais que non, que c'est pas Vok, c'est juste la façon qu'il se comporte. C'est comme un comportement d'humain qui a toujours été humain.
Ouais.
C'est vraiment difficile pour moi de voir un Klingon dans sa personnalité, à moins qu'il ait été complètement reprogrammé.
Ouais.
Je sais pas de quelle façon là. Mais c'est la seule façon qui me fait dire que c'est pas que Tyler c'est pas Vok.
Ouais, parce que je veux dire tu sais ça se pourrait que Vok était interprété par le Shahzad Latif autant que pour que Weyoun et Brunt et tout ça étaient tout interprété par Jeffrey Combs.
Mais ouais.
Ça peut simplement être le même acteur qui joue des rôles différents. Il n'y a rien qui empêche ça. Et justement, comme j'avais mentionné la semaine dernière, des fois, justement, pour ces occasions-là, l'acteur va parfois demander d'être mis à un différent nom dans les crédits. Donc, ça peut simplement être ça. Tu sais, ça pourrait être juste comme un false flag, juste pour nous...
induire en erreur.
Pour nous induire en erreur, nous faire théoriser comme ça se peut pas, puis...
C'est ça. Surtout, toute l'évidence est là. Il a été casté comme un Klingon au début. Après ça, ils l'ont transformé en officier de Starfleet. L'acteur, là. Ça fait que c'est sûr que c'est la conspiracy theory parfaite, là.
Ouais. c'est ça. On verra bien. Donc, je suis encore un peu à cheval. Je veux croire que Ash est Ash. Je l'aime bien, j'aime bien ce que ça s'en va avec
Burnham.
Avec Ash et Burnham. Là. Mais. Je sais pas, ce serait plate. J'espère qu'ils vont y faire passer le test du Tribble à un moment donné. Là.
Il est de retour!
C'est ça qui va arriver!
C'est ça! Wow, il est excité!
Ouais, c'est Camille.
C'est ça donc. Oui, vas-y.
Ben, juste dire que c'était vraiment le fun d'avoir finalement un away mission sur une planète. Ça, c'était vraiment cool. Puis, la planète, c'est un boisé à Toronto là, avec une teinte bleue. Là. Mais c'était vraiment bien. Puis, pour moi, l'effet était vraiment réussi. Puis, c'est ça encore là, qui fait que ça donnait le ton d'un épisode typique de Star Trek, le fait qu'ils ont été sur une planète, tout ça. Parce que c'est la première fois depuis cette série-là qu'ils vont ailleurs que sur un vaisseau. Moi, je me trompe.
Ouais, on a vu une scène sur Vulcain, mais c'était pas l'équipage. Ben oui, à part de ça, encore Vulcain, c'était pas mal du green screen. C'était pas comme un véritable... En fait, c'est vrai. On a eu la scène dans le désert au début.
Ah oui, effectivement. Ça avait été filmé, je pense, au Jordan, dans un vrai désert.
En Jordanie, oui.
En Jordanie. Okay.
Le roi de la Jordanie, qui est un fan de Star Trek.
Un très gros fan, moi.
Et qui, alors qu'il était prince, avait visité, avait même été...
J'ai eu un rôle.
Un petit rôle, un walk-on role dans Star Trek Voyager. Donc, c'est quand même quelque chose. C'est vrai que ça fait changement. Tu sais, d'habitude, on n'est pas habitué de voir ce genre de climat-là dans Star Trek parce que justement, c'est pas à Los Angeles. Tu sais, de voir une forêt boréale, mais tu sais, ça fait changement, tu sais. C'est pas une carrière, c'est pas une forêt tropicale, c'est pas. C'est une forêt, tu sais. Il me semble que c'est rare qu'on voit ça dans Star Trek.
Il y avait peut-être dans Star Trek Into Darkness au début, là, où est-ce qu'il court dans la forêt rouge, là, un petit peu. Là. Ça peut peut-être donner une allure, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même végétation. Je sais pas si vous avez remarqué, mais justement, sur la planète... pendant que Saru capotait un peu avec tous les bruits qu'il entendait, j'ai cru avoir entendu le son du transporteur.
Oui, le son du télétransporteur. Oui, le son du télétransporteur original, en effet, j'ai entendu la même affaire.
OK.
Puis c'est vraiment la version allongée, là, comme...
Je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est peut-être juste un genre de Easter egg, là.
Ouais, j'ai l'impression que c'est un Easter egg auditif, là, mais c'était bien placé. En effet, t'es pas tout seul, là, j'avais remarqué aussi.
OK.
Mais non, c'est ça. Donc, on a Stamets. La relation entre Burnham et Saru... On a pris encore une... Je pense qu'elle va s'améliorer, mais c'est comme un pas en avant, deux pas en arrière. Là. C'est un peu plate pour eux autres. Mais là, pour cette fois-là, c'est pas de la faute à Burnham. C'est vraiment... Pour une fois, c'est Saru qui a capté... Qui a pété une coche, là, mais... Ça va peut-être aider avec leur relation dans le futur. Mais là, je suis curieux de voir justement qu'est-ce qui va se passer avec Saru au prochain épisode, parce qu'il ne veut pas le remettre en poste genre tout de suite de même, là.
Mm-hmm.
Surtout que c'est ça. Même, c'est...
Il est comme un peu émotionnellement compromis.
C'est ça. Fait que... Ben d'ailleurs, on l'a pas vu dans les previews, je l'ai pas vu là sur la passerelle. Fait que je sais pas si Doug Jones va prendre un siège arrière pendant le prochain épisode. On verra.
Ah, puis justement, tantôt, on mentionnait Vok, si c'était Tyler.
Ouais.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais le Trouble de Lorca, il est revenu sur son bureau, dans son... voyons, sa salle, son...
Son ready room.
Son bureau, son ready room, c'est ça. Fait que peut-être...
peut-être que finalement, on va voir Ash et un Trouble dans la même pièce. On verra bien. Mais non, c'est ça. Non, outre ça, c'était vraiment un épisode classique. Il y avait justement les... Tu sais, c'était les aliens de Pavo, c'était pas des êtres non corporels classiques à la TOS, mais il y a vraiment une explication semi-cohérente par rapport à ce que c'était. C'était pas juste un energy being de la semaine.
Mm-hmm.
Bon, ça faisait un peu... Personnellement, je trouve que ça faisait un peu Avatar, là.
Mm-hmm.
C'est sûr, mais en même temps, ça reste un trope de science-fiction classique, là, justement, la planète vivante. En fait, on a même vu ça dans Guardians of the Galaxy 2, là, en fait, en tant que tel, tu sais. Ça, c'est... Fait que... Je suis curieux de voir là, ce qui va se passer parce que là, est-ce que c'est drôle de voir justement là, une race qui fait un peu la job de la Fédération dans le sens de vouloir faire la médiation entre. Je sais pas si c'est vraiment une vraie job de médiation ou s'ils voulaient juste comme précipiter comme la fin de la guerre. Je suis curieux de voir si on va voir comme une explication par rapport à leur motif. Pour avoir appelé là, les Klingons. Parce qu'ils ont vraiment spécifiquement appelé les Klingons. Fait. Ils savent, la planète sait ce qu'elle fait, techniquement.
Peut-être qu'ils veulent juste un bon show comme dans Arena.
Ouais,
avec le Gorn.
Ou c'est A Taste of Armageddon, là, où ce que tu avais avec justement là, Abraham Lincoln et Kallus et tout ça. Donc, peut-être que ce serait un autre signe classique. Là, peut-être que genre, le rôle de Saru l'épisode prochain serait peut-être justement là, de voir là, d'être l'interprète pour la planète puis qu'il y a déjà une bonne connexion avec. Ce serait à voir. Sinon, d'autres choses à mentionner par rapport à cette semaine? Donc, on rappelle le titre Civis Pacem Parabellum. Donc, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et si je me rappelle bien, j'ai lu que sur toutes les balles de fusil, il y avait Parabellum décrit ou quelque chose comme ça. Faudrait que je révise Bullet.
Je sais qu'il y a un arme à feu qui s'appelle Parabellum.
Mais... C'est ça, mais... c'est ça. Mais faudrait que... t'as un 9mm Parabellum Bullet. Ah non, ça, c'est un ban. En tout cas, faudrait que j'avais lu en quelque part, je pense que c'est les balles utilisées par les Nations Unies ou quelque chose comme ça. Faudrait que je revérifie mes informations par rapport à ça, parce que t'avais genre... je pense que c'est Parabellum qui était écrit genre sur une... sur les... les balles de fusil, quelque chose comme ça. Il faudrait que je revérifie ça. Mais bon, on lit des affaires sur Internet.
C'est toujours vrai sur Internet.
C'est ça.
Surtout sur Wiki.
Ah oui.
Oh oui.
Oh oui, la... Wiki.
Wiki, c'est la meilleure source.
Alors, Memory Alpha, là. Au moins, c'est facile de vérifier les sources dans Memory Alpha. Ça s'appelle les DVD puis les Blu-ray. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est, bon, moi, je pense que ça va pas mal conclure l'épisode de cette semaine. Mm-hmm. Donc, ça fait toujours un plaisir de vous parler, la gang.
Merci, vous autres aussi.
Moi, il faut que je dise que je m'excuse pour... j'ai pas encore contacté notre gagnant. J'ai pas encore envoyé le concours pour la housse Tricky. J'ai été occupé toute la semaine.
On va faire ça. On était occupés tous les deux. On va s'y mettre ce soir. Donc, on va s'occuper justement du concours pour la housse et de contacter notre gagnant. Donc, parce que on a des vraies vies au travers de tout ça. On travaille, on a de l'école, on a des cours.
On magasine pour nos prochains cosplays.
Ouais. On écoute des Star Trek.
On écoute des Star Trek. On a Noël qui s'en vient.
C'est ça.
Hey, l'arbre de Noël qui est déjà sorti à Place Laurier, toi.
Oh.
Ah oui, le village de Noël au complet.
Ouais, mais... C'est comme, quand, au Dollarama, avant même l'Halloween, il y avait déjà des décorations de Noël.
Ah oui.
Au Costco, je pense que c'est comme un mois avant l'Halloween, les décorations de Noël. C'est ridicule.
Bon, sur ce, on va y aller... on va y aller avec... qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Attends une minute.
Ouais, mon choix va être refusé, alors j'en donne pas.
Oh, bon.
Tout le monde sait ce que je veux écouter réellement.
Tu veux écouter Deep Fried Turkey, là, parce que...
Yes.
Bon, OK, là, bon, faut dire que je l'ai tué encore, Turkey.
Celle-là, puis Captain Kirk Climbing the Mountain, là,
ouais,
c'est,
ouais.
C'est des classiques.
C'est nos classiques.
Je l'ai pas, ah, oh. Donc, je vais le mettre, je te promets, je vais la mettre la semaine prochaine, la Deep Fried Turkey. La
ben, tu peux-tu mettre Major Tom?
Ah, ben oui, je peux mettre...
The Kirk?
Ah, mon Dieu, ouais. T'es sûr? C'est rough, là, ça.
Ouais, mais faut bien, c'est bon. Moi, j'aime ça,
c'est
moi.
Correct. C'est déjà la fin du podcast. Quand même, ouais. Qu'on perdrait du monde. Là.
C'est ça. Ouais. Donc, it's a doozy. Donc, Major... Ben, je peux mettre soit Major Tom ou Space Oddity, parce que Major Tom, c'est... l'espèce de chanson qui a été faite comme à la suite de Space Odyssey. Oddity, mais j'ai aussi l'entre parenthèses, l'original. Là. Mais donc, on va y aller avec Major Tom Coming Home. C'est celle-là que personnellement, je trouve qu'il vaut le plus la peine. On a le plus de Shatner. Écoute, là, tant qu'il amène Shatner, on va mettre Shatner comme du monde. Donc, on vous laisse... Envers et contre tous, avec sous les bons soins de William Shatner, donc avec Major Tom Coming Home, de son album Major Tom. Une chance qu'il se prend pas au sérieux. C'est tout ce que je vais dire par rapport à ça. Et d'ailleurs, si vous aimez le je vais plugger quelqu'un que j'aime bien. Si vous aimez le Kitsch Keten, allez faire un petit tour sur radiocochonnerie.org. Parce que c'est le temps Noël qui s'en vient et il va sortir sa playlist de Noël. Donc, et à chaque année, c'est toujours... c'est magique. Moi, j'aime ça. Je vais à cette radio-là pendant que j'emballe mes cadeaux. Donc, radiocoche.org. Ah oui. Mais... Pas pour déplaire à notre radio puissance maximale avec tout plein de bonnes programmations, mais
ouais.
Il y a toujours du temps pour tout le monde. Donc, sur ce, on vous laisse en bonne compagnie. Donc, William Shatner et Yann, Marc et Dom, je vous souhaite une bonne, comme on dirait le magazine le lundi, bonne semaine.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Et on s'en reparle la semaine prochaine pour la finale de cette année. Donc, à la semaine prochaine.
T-minus 1 minute 35 seconds and counting.
This is Houston, over.
Roger, go ahead, Houston.
11, this is Houston. You are go for LOI, over.
Roger, go for LOI.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
There alone. The ship is waiting. All systems are go.
Are you sure?
Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain. Nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, send me up a drink. Jokes Major Tom. The count goes on.
4, 3, 2, 1.
Earth, below us. Drifting, falling, floating, weightless. Calling, calling, home. Second stage is cut. We're now in orbit. Stabilizers up. Running perfect. Starting to collect. Requested data. What will it affect when all is done? Thinks Major Tom. Back at ground control. There's a problem. Go to rockets full. Not responding. Hello, Major Tom. Are you receiving? Turn the thrusters on. We're standing by. There's no reply.
4, 3, 2, 1.
Earth, below us. Drifting, falling, floating, weightless. Calling, calling. Earth, below us. Drifting, falling, floating, weightless. Calling, calling. Across the stratosphere, a final message. Give my wife my love, then nothing more. Far beneath the ship, the world is mourning. They don't realize he's alive. No one understands, but Nature Tom sees now that life commands. This is my home. I'm coming home.
4, 3, 2, 1.
Earth, below us. Drifting, falling, floating, weightless. Calling, calling. Earth, below us. Drifting, falling, floating, weightless. Earth, below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling, home.
down, all right. Houston, roger, we copy, and we're standing by for your TTV.